Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est des Fréquences Mistral.
Il est midi 20, nous sommes en direct de Briançon pour ce magazine du midi avec notre invité Pierre Leroy, président du PETR, du Briançonnais, des Écrins et du Guies 3 Kera. Alors aujourd'hui, nous allons parler du projet de réflexion collective sur la politique énergétique coordonné par le pôle d'équilibre territorial et rural. Alors celui du Briançonnais, Pays des Écrins et Guies 3 Kera donc regroupe ces trois communautés de communes que je viens de nommer, 36 000 habitants, 36 communes. Mais peut-être pour commencer, pouvez-vous Pierre nous expliquer ce qu'est un pôle d'équilibre territorial et rural ?
Alors c'est ce qu'on appelait auparavant les pays. Donc cette histoire, ça date quand même de pas mal de dizaines d'années. Hein. Je crois qu'au départ c'était la loi Pasqua. Donc c'est vous dire. Ensuite il y a eu la loi Voynet qui a transformé les pays progressivement. C'était au début une question d'aménagement du territoire et progressivement la dimension développement durable puis transition écologique s'est imposée au sein de ces territoires. Ce qui est très particulier, très intéressant, c'est que dans le fameux millefeuille administratif dont on entend souvent parler, là c'est une feuille à part. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche volontariste, là en l'occurrence de trois communautés de communes, de travailler ensemble. En fait, ce n'est pas obligatoire. Il y a des territoires où il n'y a pas de pays ou PETR. Et donc là, en l'occurrence, les trois communautés de communes du Guies 3 Kera, du Pays des Écrins et du Briançonnais ont choisi de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Et donc, on porte des contrats qu'on signe avec l'Europe ou avec l'État français, qui amènent beaucoup d'argent. En gros, quand les communautés de communes mettent 250 000 euros pour le fonctionnement du PETR, donc du pôle d'équilibre territorial rural du Briançonnais, nous, on va chercher 2 à 3 millions d'euros qui reviennent sur le territoire auprès des citoyens, des entreprises et des collectivités locales. Donc il y a un gros intérêt financier. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cette démarche volontariste de construire un projet en commun. Et c'est ça qui, pour moi, fait la particularité et la richesse.
Et ce sont des agents ou des personnes qui travaillent dans les communautés de communes et non, qui sont délégués ou des personnes à part ?
Non, non, on signe des contrats, avec, comme je disais, avec l'Europe et avec l'État, parfois de 18 mois, mais parfois de 6 ans. Sur le Leader, par exemple, le programme européen Leader, c'est 6 années. Et donc, ces contrats nous permettent d'avoir des financements, parfois, pour en fait embaucher des techniciens compétents. Donc là, actuellement, il y a 7 ingénieurs qui travaillent donc au sein du pays Grand Briançonnais pour porter des projets très spécifiques. Là, on travaille par exemple sur la transition du tourisme avec le plan Avenir Montagne et sur d'autres sujets similaires. C'est toujours en rapport avec la transition au sens large.
Donc justement, vous disiez que vous aviez plusieurs projets pour faire face aux enjeux de la crise climatique, entre autres. Et ce projet Dialogue territorial énergie du territoire a débuté en 2024, début 2024. Si je ne me trompe pas, enfin, j'imagine que vous avez travaillé dessus bien avant, mais on en a entendu parler à ce moment-là. Dans quel contexte s'inscrit-il ? Dans quel contexte s'inscrit son émergence, finalement ?
Alors, comme le sous-titre de mon ouvrage le précise, c'est penser et penser le territoire, penser avec un E et penser avec un A, considérant que les élus, en quelque sorte, sont des soignants de territoire. Comment on peut prendre soin d'une population et d'un territoire ? Là, aujourd'hui, on le voit bien, hein, ce qui se passe, en particulier depuis ces derniers mois, mais c'est pas récent non plus, on est confronté à un cumul de crises. À la fois la crise climatique, évidemment, qui touche d'ailleurs particulièrement les zones de montagne, mais aussi une crise démocratique, ça c'est clair, on le vit vraiment, puis une crise de biodiversité, puis une crise sociale. Donc en fait, il y a un cumul d'un certain nombre de crises et on peut s'interroger sur un territoire rural comme le nôtre et de montagne, comment on peut faire pour justement répondre à ces sujets-là. Et on considère que les besoins primaires des populations sont une porte d'entrée, si on y répond, qui permet de résoudre l'ensemble de ces crises. En zone rurale, moi je suis persuadé que nous avons on a les solutions pour justement résoudre ces problèmes-là. Donc faut-il les mettre en œuvre ? Alors c'est complexe au sens de la complexité, parce que tout est entremêlé, c'est un peu compliqué aussi, parce qu'il faut en effet véritablement faire des choix politiques. Il faut avoir le courage politique de mettre en œuvre tout ça. Et l'objectif, c'est un peu de transformer aussi la vision du monde de la société. Donc ça passe, on en est persuadé, par justement la co-construction des politiques publiques avec la population. On ne peut plus, c'est terminé, imaginer que les décisions puissent venir de façon verticale s'appliquer au territoire. On en voit les conséquences, c'est souvent dramatique, et puis surtout, ça révèle en fait des oppositions locales. C'est partout en France aujourd'hui. Ces décisions verticales sont très très mal vécues par la population. Donc là, il y a un sujet démocratique très clairement. Je suis persuadé, on l'a expérimenté à plusieurs reprises, régulièrement sur le PETR, mais on l'a fait aussi sur la commune depuis Saint-André, c'est que si on sollicite les citoyens, si on leur donne la parole, si on travaille avec eux, eh bien finalement on obtient des résultats assez étonnants. Faut-il encore faire ça avec conscience, en s'entourant de gens compétents, parce que ça s'improvise pas. La co-construction et la concertation ne s'improvisent pas, elles nécessitent des gens formés et qui sont là sur le territoire pour nous aider, nous les élus bénévoles, à mettre en œuvre ce dialogue territorial. Donc voilà, en gros, c'est ça dont il s'agit. Comment arriver à travailler avec nos concitoyens, avec les socioprofessionnels, les associations, les élus, l'ensemble de ce territoire, pour essayer de se projeter et d'avoir un projet territorial qui répond vraiment aux enjeux. C'est compliqué, on n'a pas tous la même vision du monde. Pour autant, on est tous attachés à notre territoire, en particulier dans le Briançonnais.
Oui, c'est
très clair. Dans le Briançonnais, nos paysages, notre environnement, le territoire, tout simplement, ce bassin de vie, on le voit. Tout le monde est extrêmement attaché à ce territoire. C'est un territoire très attractif. Les gens ont fait le choix pour la plupart de vivre ici. Et donc, évidemment, ils y tiennent. Donc, justement, c'est intéressant. Comment on peut les mobiliser pour imaginer un avenir qui soit désirable et qui répond surtout aux enjeux des différentes crises qui nous enserrent.
Justement, on va décrire un petit peu toute cette démarche que vous avez mise en place, puisque vous faites appel à des scientifiques, on va y revenir. Ça, c'est l'aspect démocratique qui est un des aspects principaux de ce projet, mais qui vise quand même à trouver des orientations pour développer une politique énergétique, mais qui a déjà été réfléchi dans d'autres projets. Est-ce qu'on pourrait aussi évoquer le contexte au niveau de l'énergie, de ce qu'il en est aujourd'hui et dans quel cadre ce projet s'inscrit dans peut-être d'autres initiatives locales ?
Alors tout à l'heure, je parlais de penser le territoire, c'est-à-dire répondre aux besoins primaires des populations. Alors certains connaissent la pyramide de Maslow ou d'autres représentations qui nous permettent. C'est quoi les besoins primaires ? C'est boire. C'est pas garanti en France partout, ni en quantité ni en qualité. C'est manger, c'est pas du tout garanti en France. L'autonomie alimentaire de nos territoires en France, elle est de 2 jours, 3 jours. C'est-à-dire que pendant 360 jours, notre bouffe est dans des camions. Donc clairement, c'est pas garanti, manger bio et local sur les territoires. Mais se loger, l'est pas non plus. Avoir suffisamment d'énergie, on connaît la précarité énergétique, en particulier dans les zones de montagne et d'altitude où il fait froid. On a une part importante de notre population en région PACA qui est en précarité énergétique. Donc ce besoin n'est pas garanti non plus. Donc voilà, comment on peut répondre à ces besoins primaires des populations en travaillant de façon démocratique sur ce sujet-là. Donc on s'est emparé en effet du sujet de l'énergie. Ça fait déjà, comme vous le dites, un certain temps qu'on travaille sur la transition énergétique. Là, par exemple, sur les 36 communes du territoire, 31 communes éteignent l'éclairage public entre minuit et 5 heures, approximativement. Donc il y a eu déjà des travaux sur la sobriété énergétique. On a réhabilité sur les territoires une centaine de bâtiments publics au niveau thermique pour baisser les consommations d'énergie. Heureusement qu'on l'a fait, parce qu'après on a vu l'augmentation du coût de l'énergie. Des communes s'en sont satisfaites parce que préalablement, elles avaient déjà anticipé cette affaire. Donc, ce sujet de la transition énergétique au sein de la transition écologique est déterminant. Il est question de quoi ? Il est question de faire preuve de sobriété, d'efficacité, puis de production d'énergie renouvelable. Notre territoire, je l'ai dit tout à l'heure, est fragile. Il a des paysages hors du commun, sa biodiversité est fragile, on y est tous attachés. Comment on peut trouver un chemin au milieu de tout ça, sachant que, eh bien, on a aujourd'hui en production d'énergie renouvelable des conflits. C'est-à-dire que des producteurs d'énergie, des collectivités se trouvent confrontés à un type de population, et je dis pas que c'est péjoratif, hein, des environnementalistes, des kayakistes, des pêcheurs, qui peuvent, eux, dire « Attendez, ce que vous faites n'est pas pertinent pour le territoire, parce que l'impact est trop important. » Je pense à l'hydroélectricité, mais ça peut être aussi sur le photovoltaïque au sol, ça peut être évidemment sur l'éolien. Donc, il y a un vrai sujet de travail de concertation pour savoir qu'est-ce qu'on désire sur notre territoire. On consomme tous de l'énergie. Donc, comment on peut baisser nos consommations d'énergie? Malgré tout, il va falloir qu'on produise de l'énergie renouvelable pour être autonome en énergie. Et ça, c'est d'ailleurs l'objet de notre plan climat. On a ce qu'on appelle un PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriale. La communauté de communes du Briançonnais en est l'obligé. C'est-à-dire que toutes les collectivités en France de plus de 25 000 habitants doivent avoir un PCAET. Nous avons un PCAET, vous pouvez aller voir sur le site internet du Pays Grand Briançonnais. Il y a un diagnostic territorial et puis il y a des projets d'action qui sont prévus pour aller vers l'autonomie énergétique du territoire. Et on en est loin. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les citoyens, les 36 000 habitants de ce territoire, soient éclairés, c'est le cas de le dire, mais éclairés intellectuellement, armés, en ayant les connaissances suffisantes pour comprendre l'enjeu. Combien on consomme? Combien on produit? Quel est le différentiel? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut prévoir ensemble comme sobriété individuelle et collective pour baisser nos consommations d'énergie, et ça, on a un travail considérable à faire à ce sujet-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va accepter de produire comme énergie renouvelable, sachant que toutes les énergies renouvelables ont un impact. Là-dessus, c'est clair. Mais il va falloir faire des compromis. Et où on met ce curseur en termes de sobriété et en termes d'efficacité, puis de production d'énergie. Ça peut paraître comme étant des efforts. Moi, je le vois plus comme un challenge. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu. Comment chez moi, je peux m'amuser à baisser ma consommation d'énergie? Aujourd'hui, ma maison, par exemple, produit 3 fois l'énergie que je consomme. Je me suis amusé depuis 20 ans à baisser mes consommations et puis à produire de façon responsable l'énergie que je consomme. Et ça fonctionne. Donc, individuellement, on peut tous faire ce jeu-là. Puis collectivement, et là aussi, il peut y avoir des conflits. C'est-à-dire que quand il est question d'éteindre l'éclairage public, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, quels sont les arbitrages qui sont bons pour nous tous? Comment on peut construire un projet collectif désirable? Il n'est pas question d'intérêt individuel, là. Il est question d'intérêt collectif. Et pour ça, il faut qu'on soit suffisamment informé de choses fiables. C'est pour ça qu'on a besoin des scientifiques pour que le débat partent sur des données qui soient réellement mesurées et fiables.
Justement, j'allais revenir sur cet aspect scientifique pour faire tout ça, pour trouver ces orientations dont vous parlez avec les habitants, habitantes, acteurs, actrices du territoire. Vous faites appel à des scientifiques, à un appui scientifique. Comment travaillez-vous avec eux? Alors, on va rappeler, vous travaillez avec l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, mais aussi l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. Alors, pourquoi ces deux organismes et comment travaillez-vous avec eux?
Alors, en effet, ils n'ont pas le même rôle. L'INRIA, là, en l'occurrence, les scientifiques qui bossent avec nous, l'INRAE, sont des scientifiques qui sont spécialisés, qui viennent des sciences humaines, ceux-là, et sciences sociales, et qui sont spécialisés sur les conflits d'usage et sur la concertation. Donc là, il y a des scientifiques qui bossent dans une quarantaine de pays du monde sur ces conflits d'usage, souvent en rapport avec l'eau d'ailleurs, en Tunisie, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Calédonie. Donc ces scientifiques ont l'habitude et ont éprouvé des systèmes de concertation. Comment mettre les gens ensemble, qui habituellement se voient au tribunal ou sont en conflit, comment les mettre autour d'une table pour bosser ensemble? Donc ça, c'est le premier groupe de scientifiques. Et le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus là des scientifiques des sciences dures, donc c'est l'INRIA, qui bosse sur les calculs de flux. Là, il est question d'énergie, donc le flux d'énergie entrant sur notre territoire, sortant du territoire. Quels sont les calculs de flux de nos consommations, de nos productions d'énergie? Et là, on a besoin de choses concrètes, mesurables, fiables, éprouvées, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi et que sur le débat, il soit vraiment efficace et satisfaisant. Donc on a ces deux types de scientifiques qui nous permettent aussi, nous, de prendre du recul. On est sur une commande, on a souhaité ce travail-là, mais ce n'est pas nous qui pilotons ce travail. On est là pour aider, mettre en musique cette affaire, mais on a surtout besoin des scientifiques, c'est eux qui sont vraiment les mains dans le cambouis pour tenter de faire que ce travail de concertation soit le plus efficace et qu'ils répondent aux enjeux. Donc, ils ont proposé, en effet, un tirage au sort. Et là, en l'occurrence, il y a un comité de pilotage aussi avec des gens du territoire qui ont validé un tirage au sort sur liste électorale. On est 36 000 habitants. On a fait, dans la pratique, deux tirages au sort de 250 habitants pour créer un panel. Donc ça, c'est un groupe de personnes, de 25 personnes, qui ont une attention particulière auprès... On a une attention particulière auprès d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont informés, formés, ils ont des visites sur site, ils ont les scientifiques sont auprès d'eux pour leur donner des éléments de compréhension, et ce panel travaille justement pour déterminer leur choix, en tout cas, de ce groupe-là.
Pourquoi 25?
Parce qu'il faut bien choisir. Ah. Et il semble que 25, pour les scientifiques, était la masse critique qui est intéressante. C'est pas trop ni trop peu pour pouvoir vraiment travailler ensemble. Mais à la limite, c'est pas tant ce groupe, il nous intéresse, mais ce qui nous intéresse surtout, je dirais, c'est l'agora, ce qu'on appelle l'agora, c'est-à-dire... Nous tous, les 36 000 habitants du territoire. Le panel travaille en ce moment, mais nous, on fait surtout appel aux 36 000 habitants du territoire qui sont sollicités là, dès aujourd'hui, sur plein de sujets, pour eux aussi être formés, pour eux aussi être éclairés, pour eux aussi avoir une information qui leur permette de se forger un point de vue.
Et comment faites-vous ça ?
Donc on a commencé, si vous allez sur le site internet du PETR, vous avez déjà des webinaires, il y en a je crois 3 ou 4 là qui sont déjà en ligne, où là vous avez des informations par des spécialistes, à la fois des locaux, des régionaux, des nationaux, des gens assez pointus. Là le dernier c'était sur les paysages, c'est des gens très pointus sur ce sujet du paysage. Donc à chaque fois, on a des webinaires qui permettent, que vous pouvez regarder n'importe quand, qui vous permettent de découvrir, et en général, tout le monde nous dit « Waouh, c'était passionnant !» Donc ça se fait en présentiel à des heures données, mais ça peut se faire a posteriori en ayant cliqué sur le webinaire. Donc on a ces webinaires, on a aussi des visites sur site. Là, on avait samedi dernier une visite sur site, on est allé au bord de la Durance, pour voir les impacts environnementaux de la production d'énergie renouvelable, par exemple. Voir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe avec des spécialistes. On a eu aussi une intervention sur le solaire. Et là, on découvre qu'il y a plusieurs systèmes solaires. Le bioclimatisme, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque. Alors que souvent, on ne parle que du solaire photovoltaïque. Mais en fait, non, il y a plusieurs systèmes solaires avec des avantages, des inconvénients. Donc, on a eu aussi une formation sur l'hydroélectricité. Donc, on est allé sur place visiter des sites hydroélectriques. Donc là, ça permet aux gens de voir, de palper, d'avoir des connaissances et petit à petit de se forger un avis. Et c'est ça qui nous intéresse.
Et comment recueillez-vous cet avis, justement, après ?
Alors, ça va se faire dans... Le travail commence, hein. En fait, non, il a commencé depuis longtemps, dans le sens où, au début, on a fait un premier travail avec les acteurs du territoire qui sont concernés. Donc, les kayakistes, les pêcheurs, les environnementalistes, les producteurs d'énergie, les élus. Avec tout ce petit monde-là, on a discuté sur le process de concertation. Comment on va faire ? Parce que ça, c'est déterminant. Mmh. Vers quoi on va et comment on fait ? Là, ils se sont mis d'accord... Alors, c'est bien, parce qu'habituellement, ils n'étaient pas nécessairement d'accord. Mais en tout cas, sur le comment faire, ils se sont mis d'accord. On a 50 pages de synthèse sur ce travail-là. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est rentré vraiment dans le dur, ou en tout cas dans le concret, avec le panel et avec l'agora. Et donc là, aujourd'hui, on multiplie les interventions pour la connaissance. À la suite de ça, mais ça commence déjà, on a des débats, on a des discussions, on a des questionnements, on tente, nous, avec les scientifiques surtout tentent de donner des réponses à ces questions, et petit à petit, on va rentrer véritablement dans la discussion et le débat pour petit à petit faire sortir un point de vue consensuel, si possible, en tout cas, une orientation.
D'accord. Et cela se fait lors de discussions en commun avec tout le monde,
tout à fait.
Prise de questions, réponses.
Exactement.
D'accord. Et donc là, j'imagine, plusieurs acteurs du territoire viennent, interviennent pour avoir différents points de vue, pour essayer d'éviter les contentieux dont on parlait tout à l'heure. Et les élus, alors, puisque ce seront eux qui seront concernés, c'est eux qui prendront, entre autres, les décisions politiques publiques,
oui.
Comment les intégrez-vous ?
Alors, tout le monde est concerné, et les élus, ce sont des citoyens. Et les citoyens aussi sont des consommateurs d'énergie et des producteurs d'énergie.
Ils sont présents
donc,
alors.
En fait, tout le monde est concerné. Donc systématiquement, il y a des élus présents. Je pense à samedi dernier, il y avait des élus lors de la visite sur site. Alors c'est pas toujours les mêmes, suivant les événements. Dans les webinaires, il y a des élus. Il y a des élus qui sont plus présents, d'autres beaucoup moins. Les scientifiques vont contact aussi. Directement avec les élus. Ils ont pris rendez-vous. Donc, ils vont voir les élus dans leur bureau pour justement discuter, les faire parler, faire remonter des sensations et des points de vue. Donc, on sollicite les élus comme les autres. Mais encore une fois, les producteurs d'énergie ne sont pas nécessairement des élus. Donc, tout le monde est concerné. En tant que consommateur, on a une expertise quant à l'énergie parce qu'on appuie sur le bouton de la lumière. On consomme tous de l'énergie, donc on est tous en quelque sorte un petit peu experts de ce sujet-là. Donc il s'agit vraiment de mettre tout le monde autour de la table. Les élus, évidemment, ont une place importante. Donc il y a entre autres une conférence qui est prévue, c'est la conférence des maires qui a lieu tous les ans. Et là, en l'occurrence, c'est le 6 décembre. Le 6 décembre, les élus seront sur ce sujet sollicités. Et donc ils vont avoir, eux aussi, une formation, des informations. Le sujet plus particulier qu'on abordera avec eux, c'est le process de construction de projets d'énergie, et puis c'est aussi l'innovation financière. Parce qu'en fait, là, le sujet qu'on aborde, c'est quelle énergie sur nos territoires, tenant compte des paysages, tenant compte de la biodiversité et tenant compte des finances locales. Les élus, et j'en fais partie, leur objectif, c'est quand même de trouver de nouvelles ressources financières. Parce que la baisse des dotations de l'État, les nouvelles compétences parfois non financées font que les collectivités locales cherchent des ressources. La production d'énergie renouvelable fait partie des solutions. Donc c'est tout à fait légitime que des élus s'interrogent à ce sujet-là. Donc en fait, et c'est souvent un impensé, les finances locales. Donc là, on remet ce sujet sur la table pour que les citoyens soient conscients aussi de ces impératifs et de quelque part même d'épée de Damoclès au-dessus de la tête des élus. Donc il faut qu'on mette tout ça, c'est pour ça que c'est complexe, c'est compliqué, mais l'intérêt, c'est qu'on en parle. Il ne s'agit pas de mettre un mouchoir dessus, il faut au contraire que tout le monde se sente concerné et que chacun s'aide mutuellement et qu'on tente de trouver des sorties qui sont intéressantes. Et sur les finances locales, la Banque des Territoires nous accompagne, il y a un certain nombre d'organismes qui nous accompagnent, où là, peut-être il faut faire preuve d'innovation pour pouvoir monter des projets ensemble et pas séparément. On peut aider les collectivités à construire des projets, peut-être moins de projets, mais en tout cas mieux pensés, mieux financés pour le local. Donc ça fait partie des pistes sur lesquelles, au milieu de tous ces débats, c'est une des pistes qui est proposée aux élus le 6 décembre.
C'est un vaste sujet, puisque la question des financements, notamment des productions d'énergie renouvelable, peut créer tension avec les populations locales. Ça a été vu dans le 04 notamment, avec justement cette épée de Damoclès qui pousse parfois certains maires à accepter des projets et... C'est là qu'on voit que les enjeux sont pas les mêmes et que ça peut créer conflit. Et donc, c'est intéressant ce processus, cet espace plutôt créé de discussion.
Oui, puis il y a besoin véritablement d'un accompagnement. Il faut comprendre, les élus, c'est des bénévoles citoyens. Ils ont aussi besoin qu'on les aide, qu'on leur donne les outils, qu'on leur permette d'avoir de la connaissance pour éviter des erreurs, pour optimiser les choses et pour faire que tout le monde soit conscient des enjeux. Donc il y a un vrai besoin et on va tenter de mettre notre pierre à cet édifice de la connaissance. Donc le 6 décembre, on compte sur tous les conseillers municipaux du territoire, des 36 communes, et des maires, évidemment, mais tous les conseillers sont, et puis les citoyens sont invités d'ailleurs lors de la conférence des maires. Donc ça sera un moment important.
Donc un espace de discussion, de rencontre, une participation citoyenne. Nous avons également parlé du contexte de ce projet. Peut-être maintenant, j'aimerais parler plus de l'aspect données, réflexion sur la question de la politique énergétique sur notre territoire. Il y a donc des objectifs d'orientation. Quels sont les livrables qui sont attendus à la fin de ce projet ?
Alors ça, c'est une question intéressante, c'est une question particulière, complexe, parce qu'on parle de concertation. Si on savait où on allait, ça ne serait pas de la concertation. Et ça, c'est difficile à appréhender cette affaire-là. C'est-à-dire que tout le monde nous a dit, mais attendez, nous, on a envie de savoir où on va. Sinon, on ne s'engage pas dans cette affaire. Et nous, on leur dit, bah oui, mais si on sait quel va être le résultat, ben, en fait, c'est pas de la concertation, c'est qu'on aura déjà prévu les choses. Et là, en l'occurrence, on ne sait pas où on va. Donc, on vous demande d'avoir une certaine confiance dans ce processus de concertation. On ne dit pas, on reprendra sans filtre les conclusions de cette concertation, comme ça a pu être dit à d'autres moments.
C'est une de mes questions, tout à fait.
Par contre, nous, on s'engage quand même à ce que tout ce qui est dit soit vraiment enregistré et fasse partie du débat. Plus il y aura de monde, plus il y aura de légitimité, plus les gens vont participer, plus ça aura évidemment un poids vis-à-vis justement à la fois des opérateurs énergétiques, à la fois des élus, mais à la fois aussi des associations environnementales, etc., etc. Plus il y aura de monde, plus ça aura du poids. Donc ça, c'est une première chose. Après, on peut imaginer que cette concertation aboutisse à des propositions très concrètes sur des dispositifs à mettre en œuvre pour justement faire que ce travail puisse avoir du poids demain. Donc ça, on va voir, il commence déjà à y avoir des propositions dans les discussions en rapport avec ça. Mais à ce stade, on ne peut rien affirmer parce qu'encore une fois, ça va dépendre de la concertation.
En amont, même peut-être en aval de cette concertation, il y a quand même les scientifiques qui sont présents et qui vont chercher des données concrètes.
Oui, mais ce n'est pas les scientifiques qui vont dire « il faut que vous fassiez ça demain ». Non, eux les scientifiques, ils sont là pour faire remonter véritablement auprès des 36 000 habitants leur point de vue de ce qu'il faut faire. Et ensuite, si on a une légitimité suffisante, eh bien on fera. On a en quelque sorte une obligation de moyens. On n'a pas une obligation de résultat parce qu'encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Enfin, ça dépend de moi, mais je suis un parmi 36 000. Donc, qu'est-ce que les 35 999 autres veulent pour leur territoire ? À eux de nous le dire. Et là, on construira un véritable projet.
Et pour réfléchir ensemble, vous avez, vous le disiez tout à l'heure, plusieurs quand même thématiques, plusieurs axes pour comprendre, voir comment réfléchir à ces questions. Donc vous parlez de sobriété, de production d'énergie. Peut-être on peut parler déjà de la sobriété. Comment calculer ou comment estimer une sobriété? Comment demander l'avis des acteurs et actrices, des habitants de ce territoire?
Sur la sobriété, tout dépend de quoi vous parlez. Mais là, en l'occurrence, on connaît la consommation du territoire. On a des données Enedis, on a un certain nombre, et justement c'est les scientifiques qui bossent là-dessus pour extraire ces données et pour les rendre compréhensibles. Donc là, c'est tous les flux dont je parlais. Donc on va pouvoir avoir des informations très fiables. Et de ce fait-là, on va aussi pouvoir pressentir quelles seront les capacités à baisser nos consommations dans certains domaines plus que dans d'autres. Donc, à nous de voir. Et quand on parle d'énergie, il faut aussi que les citoyens soient bien... De quoi on parle quand on parle d'énergie? Rien que ça, déjà. Il faut savoir que la mobilité a évidemment une place prépondérante C'est pas que la consommation d'énergie dans ma maison, c'est comment je me déplace. Et souvent, la place de la mobilité dans cet ensemble de consommation énergétique, c'est 30 à 40%. Donc c'est considérable.
Donc c'est là, le principal.
Oui, vraisemblablement. On va voir avec les calculs de flux.
Moi, Bien sûr, les voilà. Calculs n'en sont pas.
Mais en tout cas, c'est avec le logement, de toute façon, la mobilité et le logement, c'est évident, c'est les deux consommations principales. Donc il faut qu'on affine tout ça et qu'on donne les éléments de compréhension qui pourront permettre de changer de pratique. Donc peut-être se déplacer autrement. C'est des messages aux citoyens, c'est des messages aux élus aussi, qui aujourd'hui, sur les trois communautés de communes, quand même, les trois communautés de communes ont pris cette compétence mobilité. Comment elle se développe concrètement pour permettre aux citoyens de changer de pratique. Voilà, c'est tous ces débats qui sont passionnants, en fait, hein, parce que ça touche notre quotidien.
Oui, c'est très concret.
Ah ben, pour le coup, oui.
Et au niveau de la production d'énergie, il nous reste peu de temps, mais peut-être quand même quelques mots. Qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà les chiffres comme énergie et comment sur notre territoire ?
Alors, je ne les ai pas là, oui, mais on a évidemment les chiffres de la production. Ça, c'est très clair. En gros, on sait que... Alors, dans l'énergie, il y a une partie, c'est l'électricité. On sait qu'on produit, par exemple, 100% de l'électricité qu'on consomme sur le pays Grand-Briançonnais. Mais à quel pas de temps ? Là, en l'occurrence, c'est un pas de temps annuel. Et on le sait, les énergies renouvelables sont intermittentes, donc elles produisent beaucoup plus à certains moments de l'année, ou de la journée d'ailleurs, parce que le solaire, la nuit, ça marche pas. Donc, et c'est là où ça, le détail est intéressant, parce que là, on se rend compte que oui, peut-être on produit 100% de l'électricité, uniquement de l'électricité, pas de l'énergie, hein, sur notre territoire à l'année, mais au pas de temps mensuel ou au pas de temps journalier, pas du tout. On est en fort déficit de production. Donc comment tout ça ? Alors derrière, il y a aussi le stockage qui est intéressant. Ça amène plein de questions passionnantes. Il ne faut pas être effrayé. C'est juste passionnant. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est que les gens puissent être attirés par cette affaire qui les concerne dans leur quotidien et puissent comprendre quelle est leur place, quel est leur pouvoir d'agir aussi. Parce que finalement, c'est ça. Souvent, les citoyens sont totalement démunis face à la transition écologique parce qu'ils ignorent leur pouvoir d'agir. Là, on va leur redonner du pouvoir d'agir.
Surtout sur les questions d'énergie, qui sont très, très complexes, comme vous le disiez. Et on n'a pas encore de solutions concrètes, d'exemples qui existent. On est en plein dedans, donc tout ça est à voir. J'aurais peut-être une question sur les énergies renouvelables qui seraient envisageables de développer. Cela pose aussi question, vous parliez d'un webinaire sur les paysages. Peut-être un mot sur comment vous formez les personnes qui veulent participer à ces enjeux-là. Qu'est-ce qui est pris en compte ?
Il faut regarder le webinaire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Le webinaire est fait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on a des spécialistes, souvent des scientifiques, mais pas que, qui expliquent ces données-là. C'est quoi le paysage ? Donc, je ne vais pas vous faire une conférence là sur le paysage. Le webinaire est fait pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on incite les gens à aller voir, parce qu'on découvre un monde, en fait, et c'est passionnant.
Eh bien, ce sera un des mots de la fin, puisqu'il va bientôt falloir finir cette émission. Mais en tout cas, on peut retrouver toutes les informations sur le site internet du PETR. Donc PETR du Grand Briançonnais, du Pays des Écrins et du Guy Estrois Quéra.
Il suffit de taper Pays Grand Briançonnais et on tombe sur le site internet qui est très bien fait, où il y a beaucoup d'informations. Entre autres, il y a une information sur la future conférence qui aura lieu au Théâtre du Briançonnais, mais qui sera aussi en relais avec une quinzaine de villages. C'est-à-dire qu'on est en train d'organiser, comme on l'avait fait sur 36 communes en transition, pour éviter aux gens de se déplacer à Briançon, parce qu'à Briès, Ristola ou la Grave-Villard-d'Arène, ça fait loin. Et on veut que les gens vraiment s'intéressent. Donc en fait, on va faire des relais dans les villages. Les gens seront informés de ces relais dans les communes qui sont prêtes à recevoir ces éléments-là. Ils pourront être connectés directement et poser leurs questions d'Abriès Ristola jusqu'aux scientifiques qui vont prendre la parole au Théâtre du Briançonnais.
À quelle date ?
Je ne sais plus, c'est au mois d'octobre, le 18 octobre. Enfin, j'ai peur de faire une erreur. Oui,
À regarder sur le site internet, en tout cas, c'est indiqué, effectivement, je ne l'ai plus non plus. Et quand seront juste rendus les résultats ? Est-ce qu'il y a déjà une date de fin ?
Il nous reste un travail de 12 à 15 mois. Donc c'est sur du long terme, mais de toute façon ces sujets-là nécessitent de prendre le temps. Donc voilà, c'est pour ça que le panel sait qu'il s'est engagé sur une quinzaine de mois. On rémunère les déplacements, on fait pour que les gens y trouvent leur compte et puis surtout qu'ils sortent satisfaits de cette formation.
Merci Pierre Leroy pour cet échange, donc président du PETR du Briançonnais des Écrins, du Guillestroy-Quéra ou du pays du Grand Briançonnais comme vous dites. Merci d'être venu et il est temps donc pour nous de remercier également les auditeurs et auditrices pour votre écoute. Belle journée à toutes et tous. We'll be right back.